I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Chaque année, 225 000 femmes endurent les violences physiques et sexuelles que leur infligent des hommes qu'elles aiment ou qu'elles ont aimés. Des viols, des gifles, des attouchements sexuels, des coups. Ce chiffre est tiré de la très rigoureuse enquête que fait l'INSEE chaque année. 225 000 femmes, c'est l'équivalent du nombre de personnes qui vivent à Bordeaux, ou Rennes, ou Montpellier. Et encore, 225 000, c'est une estimation minimale. Les femmes qui vivent dans la rue, en foyer, en centre d'hébergement n'ont pas été interrogées, ni celles qui vivent en dehors de la métropole. 225 000 femmes tous les ans. Même à supposer qu'un homme ait violenté plusieurs femmes différentes, ça fait quand même un paquet d'hommes violents. Qui sont ces hommes? Pourquoi et comment sont-ils violents? C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui avec vous, Isabelle Steyer.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes avocate. Ça fait 20 ans que vous traitez des affaires de violence conjugale, que vous défendez des victimes. Donc la violence, vous la regardez en face, vous la connaissez bien. Parce que vous défendez les victimes, mais aussi parce que vous avez créé et que vous animez des groupes d'hommes qui sont auteurs de violences.
Oui.
Comment est-ce que c'est arrivé, cette volonté d'animer ces groupes d'hommes?
Vous savez, j'ai eu un dossier qui m'a interpellée. Enfin, on est beaucoup interpellée dans ces affaires-là. On se pose beaucoup de questions sur les fonctionnements de la famille, de la société, la construction des masculinités, des féminités. Et donc, j'avais défendu une femme qui avait été victime de violences conjugales, dossier, on va dire, classique. Et un jour, elle m'appelle en me disant « Mais j'ai vraiment besoin de vous, il faut défendre mon frère. » Mon frère qui est en garde à vue et qui est accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille, donc la nièce de ma cliente. Et donc j'étais très étonnée de son appel, puisque vous savez très bien qui je défends, et je vais avoir des difficultés pour défendre votre frère. Et là, elle se met à pleurer, elle me dit, mais vous savez, j'ai tout vous expliquer maintenant. Alors même que je l'avais défendue pendant des années, elle ne m'avait pas tout dit. Et elle ne m'avait pas dit qu'elle avait été violée par son propre père, et que son frère, qui était actuellement en garde à vue, était derrière la porte et que pendant longtemps il s'est reproché de ne pas avoir ouvert cette porte pour venir défendre sa sœur et pour s'interpeller. Mais qu'est-ce qu'on peut faire face à un père, hein? Et là, c'est lui qui reproduisait ce schéma-là sur sa fille, enfin pas aussi grave puisque c'était pas des viols mais des agressions sexuelles, mais lui par contre reconnaissait les faits et s'expliquait et accepter de reprendre son histoire à zéro et donc maintenant d'ouvrir la porte. Et c'est dans ces circonstances-là que j'ai vu ce qui, maintenant on le sait, hein, mais c'était il y a 20 ans, on en parlait très peu, le lien entre la femme victime et l'homme auteur, à ce point-là, le lien. Et les secrets de famille que l'on garde, y compris quand on a accédé à la parole comme elle, y compris lorsque l'on a décidé de dévoiler, y compris lorsqu'on a eu a priori une défense qu'elle estimait, puisqu'elle m'avait rappelé, on ne dit jamais tout. Et là, le frère s'est projeté dans la posture inverse, la posture de l'agresseur.
Mais est-ce à dire que la plupart des hommes qui sont violents ont été eux-mêmes victimes de violences à un moment ou un autre dans leur vie, notamment dans l'enfance?
Alors, pas systématiquement, mais ce qui pour vous est une violence ne le sera peut-être pas pour moi, ou vice-versa. Donc ils ont tous subi ou analysé un événement qui pour eux ont modifié le cours de leur vie, de leur analyse des choses. Ça peut être tout simplement être un divorce, c'est classique, un divorce. On dirait plus au jour d'aujourd'hui que c'est une violence, un divorce. Mmh. Et bien, des enfants peuvent subir ça comme une violence. Je ne sais pas comment ça a été dit, présenté, comment ils ont vu leur père, leur mère. Donc, il y a eu un craquement dans leur vie d'enfant, qui n'a jamais été réparé, évidemment. Et après, ils se sont construits avec cette fêlure-là. Et donc, il va falloir reprendre ça. Mais ce qui est intéressant dans un groupe de parole, c'est que justement, souvent les hommes n'ont pas parlé de leur histoire victime et de leur histoire auteur. Si victimes, ils sont évidemment. Donc les hommes se taisent et ont beaucoup plus de difficultés à parler que les femmes, parce que je crois que les canaux de dévoilement des violences des hommes existent peu, alors qu'il y a des canaux de dévoilement des violences pour les femmes qui sont... Bon, il y en a les numéros verts, on a des tas de choses qui sont dites maintenant.
Même si très peu de femmes, quand même, proportionnellement,
exactement,
portent plainte.
Exactement, on est tout à fait d'accord. Hein. Mais le tabou, le secret, la difficulté de dire est aujourd'hui plus forte sur les hommes. Mais
de se dire victime, ou de dire la violence qu'ils ont subie, ou de dire la violence qu'ils ont infligée?
Les deux. Les hommes parlent peu d'eux et mal d'eux. Donc, ne serait-ce que oser dire qu'ils ont été auteurs, c'est extrêmement difficile. Et oser dire qu'ils ont peut-être été victimes, c'est à peu près jamais dans ces groupes de parole. Et parfois, j'ai envie de les secouer. J'aurais presque envie d'être presque violente avec eux, vous voyez, psychiquement. Leur dire, mais dites-moi ce qui vous est arrivé. Et je suis obligée de citer, par exemple, ce cas-là, qui les interpelle énormément. Ça interpelle tout le monde, mais ils sont vraiment secoués. Et à partir de là, il y en a parfois un, deux ou trois qui pleurent. Et qui viennent... Alors, on est confronté à des hommes qui pleurent. Des hommes qui pleurent, enfin, j'ai en public, devant 6-7 hommes.
Vous travaillez avec des hommes qui ont été condamnés.
Qui ont été condamnés. Ouais, ce sont des hommes qui ont été condamnés et qui ont pour obligation de suivre ce stage de citoyenneté qui, généralement pour la première fois, va les inviter à parler d'eux. Et ce sont des hommes très, très, très verrouillés, hein, qui n'ont jamais parlé, qui n'ont jamais vu un psychologue, qui n'ont jamais parlé même à un médecin, qui ont parfois des corps même très abîmés parce qu'ils ont été confrontés à des accidents de travail, à des accidents de voiture. Et comme on le voit en matière de maltraitance, les gens qui ont été maltraités sont confrontés beaucoup plus souvent que les autres à des accidents de la vie. Parce qu'on ne les a pas invités à bien traiter leur corps. Donc leur corps soit n'existe pas, soit est un ennemi. Quand je leur dis, mais vous êtes les seuls à habiter votre corps. Personne d'autre que vous ne va habiter votre corps. Ça fait résonance chez eux, c'est absolument incroyable. Et c'est la même chose pour votre femme, votre ex-femme, et pour vos enfants.
Comment ça se passe très concrètement? Expliquez-nous, racontez-nous comment ça se passe en fait, ces groupes d'hommes que vous animez, que vous avez créés.
Alors, j'interviens avec un psychologue, je ne suis jamais toute seule évidemment, et mon intervention est de dire la loi, donc de dire les interdits. Et à partir de là, il va se poser des questions sur qu'est-ce que cet interdit et pourquoi l'institution judiciaire et la société estiment que ce fait-là est un interdit. Donc, on ne remet pas en cause, évidemment, le bien fondé de la loi, mais on l'explique. Et c'est dans l'explication, évidemment, dans le commentaire, que là, on va voir s'ils ont intégré ou pas la condamnation. Parce que pour commencer à travailler, il faut commencer à avoir intégré le fait que l'on a été violent. Donc, on travaille avec la condamnation. Il y a souvent un temps très, très fort, très long de commentaires des condamnations. Et là aussi...
Par eux-mêmes.
Par eux-mêmes et par le groupe. Voilà. On intervient. Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe, qui d'abord, pour lui, l'homme pour lui va estimer la condamnation parfois un petit peu injuste ou trop lourde, ou voilà.
Qu'ils ont été mal compris.
Compris, pas analysé, pas compris dans les ressorts de la violence. Eh bien, quand c'est pour les autres, ils sont souvent extrêmement sévères. Et on va leur envoyer ça, en leur disant, mais attendez, pour Robert, vous êtes sévère, et pour vous, tout est possible. Alors, expliquez-moi. Et on arrive comme ça à faire ce chemin entre eux et l'autre et les confronter à leurs contradictions. C'est cette confrontation à une contradiction qui fait qu'ils avancent extrêmement vite. Et quand un reconnaît cette contradiction, eh bien les autres vont lâcher généralement sur cette question-là. Parce que le plus fort, là, dans un groupe de parole, c'est pas celui qui est violent. Le plus fort, c'est celui qui va le lâcher. Vers la vérité, vers la reconnaissance de la violence.
La reconnaissance de leur propre culpabilité.
De leur propre culpabilité, de leur propre réalité. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a un système d'inversion de leur cheminement à eux habituel, mais qui est le système, en fait, normal d'un homme, on va dire, pas non violent. Donc, ils vont acquérir très vite le fonctionnement, ils vont voir très vite le fonctionnement d'un homme non violent par rapport à leur fonctionnement, et ils ont en eux aussi l'homme non violent. Donc, c'est ça qu'il va falloir faire jaillir.
Mais c'est vraiment fascinant ce que vous racontez là pour moi, parce que vraiment à titre personnel, moi je m'interroge beaucoup sur pourquoi c'est tellement difficile de reconnaître la culpabilité, notamment dans les affaires de violence et de violence de genre. J'ai l'impression que c'est qu'il y a un déni très très fort en fait de la part des auteurs. C'est-à-dire qu'on entend énormément de victimes parler, mais on n'entend pas ceux qui ont infligé les violences en parler. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de spécifique aux violences de genre.
Tout à fait.
Pourquoi c'est tellement difficile ?
Ben parce qu'il faut parler de soi. Et les hommes violents ne parlent jamais d'eux. Ou parlent d'eux en termes de vie professionnelle, de vie sociale, de vie de voiture, de vêtements, d'apparence. Mais ils n'ont pas accès à ce qu'ils sont eux.
À leur intériorité ?
À leur intériorité, oui. Soit parce qu'on leur a peut-être appris qu'il faut être fort et qu'être fort, ce n'est pas parler de soi. Alors avec une éducation pareille, évidemment, si eux-mêmes, petit garçon, je suis fort et je ne dois pas parler de moi et je dois tout subir, si le petit garçon subit des violences, puisqu'il faut être fort, il ne va pas les dire. Mmh. Alors que ce sont des violences aussi légitimes que celles que subissent les petites filles. Mais lui, puisqu'il faut être fort, il ne va pas les dire. Donc il y a, étant souvent enfant, une tolérance à la violence qui est finalement presque plus forte chez le petit garçon que chez la petite fille.
Oui, ça, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment un problème. On peut mieux comprendre pourquoi les hommes sont violents. C'est-à-dire que c'est aussi un problème d'éducation,
c'est ça, bien sûr.
Dès l'enfance, bien sûr. De valeurs virilistes, etc. D'où l'intérêt.
Voilà la base. Qu'est-ce qu'être un homme ? Qu'est-ce qu'être une femme ? Et il se trouve que dans ces groupes de parole, on a des hommes qui sont très hommes.
Enfin, très viril.
Très viril, très macho, et qui défendent des valeurs très classiques de la masculinité. Et donc, l'ouverture pour eux est d'autant plus difficile qu'ils ont été construits de ça, pétris de ça, et qu'ils ont transmis ça à leurs enfants. Donc, ils ont une vision d'eux très, très classique, et une vision des petites filles aussi très classique. Donc, c'est-à-dire qu'eux et leur couple ont transmis les mêmes idées dont eux-mêmes avaient été pétris.
Et dont ils ont souffert.
Et donc, voilà, c'est ça, exactement. Donc, on ouvre un peu le couvercle, vous voyez ? Et ça, c'est très intéressant, parce qu'ils tombent de très haut. Et de tellement haut qu'après, ils sont assez mal. Parce qu'ils disent, mais à côté de quoi je suis passée ? Et le deuxième verrou, ou le deuxième, la façon de dénouer les choses, c'est, ça s'est passé devant vos enfants. Et généralement, ils sont aussi une relation très, très fusionnelle avec leurs enfants, peut-être. Et devant votre petit garçon ou votre petite fille, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'elle a pu analyser de ça ? Et là, c'est un autre déclic, parce qu'ils ne se sont jamais posé la question de la violence faite devant leurs enfants. Et généralement, il y en a un qui va décrocher et qui va réaliser que c'est une transmission tellement même affective, puisque quand on est témoin d'une scène de violence, même donc victime d'une scène de violence étant enfant, eh bien, la transmission, elle se fait immédiatement. Il n'y a pas d'analyse de la situation, il n'y a pas de filtre, voilà. Il n'y a pas de mots après, il n'y a pas de... Donc c'est déjà fait. Ils vont réaliser que c'est déjà fait. Et donc, ils vont se demander, est-ce que c'est déjà trop tard pour mes enfants ? Et ça, c'est un deuxième choc. Donc, vous voyez, on a énormément de clés pour arriver jusqu'à eux. Et ces clés-là, elles sont d'autant plus intéressantes que une serrure chez l'un d'eux va ouvrir toutes les autres.
Oui, alors pourquoi travailler en groupe, justement, en groupe ? d'hommes, parce que est-ce qu'il n'y a pas quand même un phénomène après le groupe peut aussi avoir des effets néfastes, non, de victimisation par exemple générale, de on n'a rien à faire là, oh, de pleurer sur leur sort, enfin on peut imaginer des mécanismes comme ça. Mais pour vous, pourquoi alors, ça a un sens de travailler en groupe?
Alors d'abord, ils sont tous très différents.
Oui, qui sont les hommes en fait qui sont dans ces groupes?
Alors ce sont des hommes qui ont été définitivement condamnés à des peines assez élevées.
Donc pour des faits très graves.
Pour des faits graves, des peines correctionnelles, hein, 2 ans, 3 ans, ce ne sont pas les 6 mois de sursis qui se retrouvent dans ces groupes-là. Et surtout, ce sont des hommes qui sont extrêmement verrouillés. Ce sont des hommes qui n'ont jamais parlé d'eux, en fait. Hein. Ce sont des milieux souvent...
plutôt des milieux populaires.
Plutôt des milieux populaires, voilà. Des milieux où on n'écoutait pas les enfants, où ils ont été éduqués à l'ancienne. Donc, aller chez le psy, pour eux, c'est pas possible. Parce qu'aller chez le psy, c'est... vous savez, j'en ai un qui, une fois, m'a dit... c'est terrible, hein, ce que je vais dire. Mais je trouve ça très intéressant sur la virilité. Il m'a dit, moi, je suis pas homosexuelle, je vais pas chez un psy. C'est terrible, hein. Et on a été obligés d'en prendre ça avec le psy. Ce qui était extrêmement intéressant sur qu'est-ce que le psy. Déjà, qu'est-ce qu'un psy? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas y aller? De quoi a-t-il peur? Et à quoi peut-il l'aider? Et donc, il n'y a pas tellement de victimisation parce qu'ils sont très différents et c'est une découverte pour eux. Et ils ont généralement soif de découvrir ce qu'il y a quand même derrière cette lourdeur-là.
Derrière la violence qu'ils ont infligée.
La violence qu'ils ont infligée, derrière le fait que souvent ils ne voient plus leurs enfants aussi. Ils voient leurs enfants uniquement dans des lieux neutres. Donc, pourquoi plus de liens avec leurs enfants? Pourquoi autant de séparations, donc avec aussi leur belle famille? Donc, un isolement, une solitude, alors que c'était des hommes pour lesquels les valeurs fondamentales de la famille étaient très importantes. Le couple, la famille, donc des valeurs très classiques. Et cet isolement, il est quand même assez lourd. Donc, là aussi, on a une clé pour les ouvrir. Qui est, bon, pourquoi est-ce que je me retrouve moi-même dans cette situation aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on m'a jugée comme ça? Et ne pas savoir pourquoi on les a jugés comme ça, c'était les marginaliser. Donc là, je vais leur expliquer pourquoi on les a jugés comme ça.
Mais on a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre que taper sur sa femme, parce que j'imagine que s'ils ont été condamnés, c'est des violences visibles.
En état de récidive, pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs.
Oui, hein, plusieurs
bien
fois.
Sûr, bien sûr.
Comment est-ce que... On a du mal à se figurer comment ça peut fonctionner, même psychologiquement. Comment est-ce qu'on peut se dire que c'est pas grave? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'expliquer la loi?
Ils se disent pas forcément que c'est pas grave. Et ils se disent que c'est la suite logique de quelque chose. D'une scène qui a commencé. Et vous savez, la violence, elle tourne. Hein, donc on va taper, après on va s'insulter, après ça va monter. Et ils ne se donnent qu'assez peu de responsabilité dans cet acte-là. Donc je vais leur dire qu'ils sont totalement responsables de cet acte-là et que s'ils ne voulaient pas en être responsables, eh bien, on sort. On va se balader, on va prendre un ballon et on va taper dans un ballon. Mais on ne fait pas ça. Et ça, ils l'entendent.
Alors qu'à la base, ils se pensaient irresponsables au sens de « elle a fait telle chose ».
Irresponsable.
Donc la seule solution, c'était de taper.
C'était de taper, voire victime. Donc la prise de conscience, elle est très rapide. C'est pour ça que le groupe de parole, l'autre est un miroir. Donc, quand un homme va s'exprimer devant d'autres hommes, même si c'est à demi-mot, même si c'est le dixième de ce qu'il y a dans le dossier, puisque moi, je n'ai pas leur dossier.
Ah oui, vous ne savez pas alors ce qu'ils ont fait?
Je leur demande. Je leur demande et je leur demande s'ils veulent bien me le dire.
Généralement, le dire au groupe?
Nous le dire, voilà, c'est ça. Généralement, ils veulent le dire. Ils en disent des choses intéressantes et on part de là. Donc, je pars de quelque chose qui est une décision de condamnation.
Et vous ne savez pas ce qu'il y a dans le dossier, mais vous savez ce pourquoi ils ont été condamnés.
Voilà, c'est ça, ce pourquoi. Et ce que je trouve aussi d'extrêmement compliqué pour eux, et pour tous les auteurs, R-E-S même, hein, quand une femme est auteur de violence, c'est que...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la table.
Les condamnations ne sont pas expliquées en droit français. Et quand il n'y a pas d'appel, les condamnations ne sont pas motivées en droit français. Il faut quand même le savoir. Ou la motivation fait une ligne. Dans d'autres pays, comme par exemple le Canada, qui est très très spécialisé des affaires de violence, eh bien, lorsque un juge condamne pour des faits de violence, il va reconvoquer les parties et expliquer pourquoi, pour lui, représentant de la loi, les violences sont constituées. Et donc, il va le dire en tête à tête avec l'homme violent et la victime, pourquoi ces violences sont constituées. Ce n'est pas le cas en France. Non seulement ce n'est pas le cas, mais donc ce n'est pas expliqué par le magistrat, ce n'est pas expliqué du coup par l'avocat, qui souvent n'a pas de motivation dans la décision. Donc il sera obligé de lui dire, vous avez été condamné à 6 mois de sursis parce que vous avez commis des faits de violence tel jour, telle date, sur la personne de votre femme.
Mais quelle explication autre y aurait à donner que ça? J'ai mal à imaginer.
Dans une démocratie, on motive.
Mmh.
Quelqu'un certainement divorcé, il y a une motivation. Pourquoi on fixe une pension alimentaire à 100 euros, à 200 euros, à 300 euros? Il y a une motivation.
Mmh.
C'est dans les fondamentaux de tous les États démocratiques.
De droit, mais pas sur les condamnations
démocratiques. Donc, si vous voulez, actuellement, par un défaut de problématique d'engorgement des juridictions, il y a des motivations qui sont inexistantes ou quasiment inexistantes.
Minimale, quoi.
C'est une ligne.
Ouais.
Quand il n'y a pas d'appel, c'est une ligne. Donc, c'est vrai qu'on aurait quand même envie, pour commencer ne serait-ce qu'un travail, de savoir et de comprendre pourquoi. Moi, parfois, j'ai aussi envie de savoir quel raisonnement le magistrat a utilisé pour que moi-même, je puisse l'expliquer à mes clients en leur disant, attendez, monsieur, ce n'est pas possible.
Vous défendez des hommes...
Il peut m'arriver... Quand ils plaident coupables, quand ils sont dans une démarche de travail psychologique, quand ils sont dans une démarche de compréhension pour éviter tout ça, oui. S'ils sont dans le déni, je ne les défends pas. On est bien d'accord.
D'accord.
Hein? Mais
il y a des gens qui les défendent, il y a des avocats qui les défendent.
Et non, alors, je veux dire, 9 fois sur 10, ils sont dans le déni. Donc, c'est la raison pour laquelle j'en défends finalement très peu d'hommes.
Violents.
Ouais. Mais c'est vrai, quand ils font ce travail, c'est extrêmement intéressant pour eux et c'est très payant. À la fois pour l'autre, pour la femme, qui entend qu'enfin... Il le dit, il le réalise dans une audience publique. Attention, une audience publique, c'est je sais pas, 50 personnes qui sont là, tout dépend de la taille de la salle, mais c'est moins 25 personnes, c'est tous ceux qui sont amenés pour se faire juger, c'est du monde, c'est le président, c'est souvent la victime arrive avec sa mère, avec son avocate, avec quelqu'un qui va pas la laisser seule après. Donc, c'est pas dire en tête à tête. Hein.
Oui, il y a une reconnaissance publique de sa propre culpabilité.
De sa propre culpabilité.
Et cela, vous pouvez les défendre.
Cela, je peux les défendre. Mmh. Et de ce qu'ils ont fait, pourquoi ils les ont fait, dans quelles conditions. Ça ne justifie pas, mais on peut expliquer les choses. Mmh. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très, C'est très intéressant parce que pour la première fois, la victime va entendre ça. Et à partir de ça, je veux dire que déjà, elle va mieux. La victime a dit, mais je suis comprise, tu le comprends maintenant. C'est tard, oui, c'est tard, c'est trop tard puisqu'ils divorcent, mais ils le comprennent. Ce sont aussi des hommes qui vont être amenés à engager une deuxième vie amoureuse.
Alors justement, voilà. Moi, j'ai toujours entendu dire... je crois que c'est quelque chose qu'on entend très souvent à oui. propos des auteurs de violences conjugales. On dit un homme violent, il sera toute sa vie violent. Oui. C'est-à-dire que, et on dit aussi que si un homme nous frappe ou est violent avec nous, il faut partir tout de suite parce qu'il va recommencer, c'est obligé.
C'est vrai. Et oui, parce qu'il faut détricoter cette construction de relation à l'autre. Tant que c'est pas compris et détricoté...
Mais est-ce que ça peut l'être ? C'est ça ma question. Parce que vu qu'on dit que ça, un homme violent il va recommencer.
Écoutez, oui, c'est vrai qu'un homme violent recommence. Mais il y a une expérience. Alors ça va pas à l'encontre aussi tout ce que je plaide, tout ce que je vous dis. Mais je veux dire dans le 1%, on va dire 2 ou 10%, c'est très difficile à évaluer. 10% d'hommes qui reconnaissent les violences. On est dans ce créneau-là. Mais ce créneau-là, le 10%, il peut peut-être venir, il peut venir s'élargir, je l'espère. Hein. Eh bien, dans ce créneau-là, vous avez quand même à Douai un avocat général qui avait décidé, dès qu'il y a une plainte, de poursuivre et surtout de tout de suite séparer l'homme violent de la victime. De le mettre dans un, de force hein, dans un foyer Emmaüs, c'est un contrôle judiciaire, une mesure du contrôle judiciaire, et de le faire condamner ou pas, de le traduire devant le tribunal correctionnel dans des délais assez courts de 3 semaines. Mais pendant 3 semaines, cet homme-là, il se retrouve tout seul, dans un foyer Emmaüs, sans sa famille, sans ses affaires, sans rien avec ce qu'il avait construit, et avec d'autres hommes violents, eh ben, je peux vous dire qu'on a très peu de récidives dans ce type de situation-là.
Ah bon ?
Et oui. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la séparation, l'isolement, donc la solitude, le désespoir finalement d'avoir tout cassé, hein, fait que c'est une prise de conscience. Qu'est-ce qui fait que des gens vont chez le psy ? C'est parce qu'ils sont tellement malheureux que leur souffrance est insupportable et que donc on va chez le psy. Eux, c'est pareil, leur souffrance va devenir tellement insupportable qu'ils vont être amenés peut-être à reconnaître les faits, puis aller chez le psy.
Ou à en vouloir à la terre entière, on peut imaginer.
Ou en vouloir à la terre entière, tout à fait. On peut avoir ce cas de figure où après, dans certains cas, heureusement rarissime, à vouloir aller plus loin et tuer la victime. Hein. Ça peut arriver aussi. Hein. Il ne faut pas être dans l'angélisme. Hein. Malheureusement, il y en a eu des comme ça. Hein.
Oui, oui, il y a
très
quand célèbre, même...
Hein. Ouais. Ah oui, oui, oui. Hein. Et donc si, et alors là, justement, s'ils violent le contrôle judiciaire, s'ils sont dans, c'est justement, c'est une, entre guillemets, une salope, elle m'a dénoncé, elle raconte n'importe quoi, et elle veut récupérer les enfants et la maison... Eh bien, s'il donne un coup au contrôle judiciaire, s'il viole le contrôle judiciaire, il faut tout de suite une révocation du contrôle judiciaire. La victime est vraiment en danger. Hein. Et là, c'est ce que ne veut pas entendre aussi l'institution judiciaire. C'est-à-dire que dès qu'il y a violation du contrôle judiciaire, il faut impérativement protéger la victime qui est en danger de mort. Là, hein. Donc, téléphone grand danger, éloignement encore plus de cet homme-là.
Mais ça, ça n'a pas du tout, ça, c'est pas du tout appliqué.
Et ça, malheureusement, ça a été très peu appliqué aussi. Donc, moi, je suis d'accord pour aider à ce dévoilement et à cet accompagnement de certains hommes qui reconnaissent leur violence. Mais je dénonce par ailleurs le fait que lorsque les hommes récidivent, la justice ne fait rien. Et la justice remet encore plus en danger les victimes, puisque alors qu'elles ont parlé pour que ça s'arrête... Ben, elles sont encore plus en danger. On est dans ce paradoxe-là.
Mais vous défendez des victimes. Est-ce que ce n'est pas difficile à tenir ces deux positions ? Enfin, quel lien vous faites entre les deux, en fait ?
Mais vous savez, les victimes, 9 fois sur 10, elles me disent « je veux qu'il change ». Les victimes, les femmes victimes ne me disent pas « je veux que mon mari aille en prison ». Sauf s'il est récidiviste ou si... Voilà. Mais mes clientes me disent, mais moi, ce que je veux... Et c'est en ça que les femmes sont très crédibles, alors qu'on vient nous dire régulièrement qu'elles peuvent déposer des fausses plaintes pour avoir gagné leur divorce. Non. Je dis non. Les femmes, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent, mais je veux qu'il s'arrête. Je veux qu'il se fasse soigner. Ce matin, j'ai encore eu 3 rendez-vous de personnes, de femmes, d'hommes qui travaillent, qui ont des... qui sont a priori intelligents, qui n'ont aucune raison de ne pas l'être. Et elles m'ont dit, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils s'arrêtent. Oui. Donc la demande, y compris de ces femmes-là, Parfois même de dire, je voudrais savoir à quel juge je dois m'adresser pour qu'il se fasse soigner. Mais ça n'existe pas. Cette demande n'existe pas. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'effectivement, cet homme-là, il réalise la gravité, qu'il se fasse soigner, et éventuellement que ça puisse, si ce n'est s'arrêter, se gérer.
Mais c'est possible, ça, vous croyez ?
Ah, c'est très difficile. Oui, c'est 10% des hommes violents qui acceptent de se faire soigner. Hein. Donc, si vous voulez, le 10% des femmes qui déposent plainte, on peut le mettre en perspective avec les seuls 10% des hommes qui ont été condamnés qui acceptent de se faire soigner. C'est résiduellement presque rien. Je suis d'accord. Mais je pense que c'est bien que ces hommes soient aussi des images, des symboles de ce que les vrais hommes, ce sont les hommes qui acceptent leur fragilité d'homme, non pas ceux qui ne l'acceptent pas.
Oui, et donc ça implique de reconnaître sa part d'ombre, ses difficultés,
exactement.
Et la violence qu'on a infligée.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous pouvez dire des hommes violents ? Alors là, on a parlé de ceux que vous suivez dans les groupes, hein, et puis après, il y a ceux que vous connaissez dans les dossiers, en fait.
Et oui.
Qu'est-ce qui est violent ?
Alors,
est-ce qu'il y a un profil type ?
Il y a un profil type dans le fonctionnement intrafamilial des hommes violents. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont une relation fusionnelle avec leur femme et qui n'acceptent absolument pas de le dialogue que l'on a actuellement ne serait pas possible. C'est-à-dire que si je ne suis pas de votre avis, il va devenir violent. La relation d'altérité n'existe pas. Donc soit ils seront fusionnels avec leur épouse ou leur épouse sera fusionnelle avec eux. Soit s'ils ne sont pas en accord, ou si leur épouse ne sont pas d'accord avec eux, la violence va arriver. Dire « tu n'as rien compris, tu es conne, c'est toi qui es nul et c'est moi qui sais tout ». Donc avec une survalorisation de son fonctionnement à lui, de ses idées à lui, et un dénigrement de l'idée de l'autre. Alors que dans un couple, on peut tout à fait ne pas être d'accord sur plein de choses, y compris dans l'amour. On peut ne pas être du même parti politique, on peut... Voilà.
Enfin, quand un couple est sain.
Bien sûr. Et donc là, on a déjà ce fonctionnement-là. Le deuxième point, c'est que ce sont des hommes qui sont devenus violents au moment de la naissance d'un enfant. Parce que dans la mesure où on est fusionnel et dans la mesure où la femme doit lui appartenir, on a une troisième personne qui va arriver, qui est le bébé. La troisième personne, elle va jouer un peu l'instance séparatrice entre monsieur et madame. Elle va être là. Alors, ce ne sera plus monsieur l'objet de tout l'amour du couple. Et donc, il va falloir le partager avec, pour eux, hein, entre guillemets, le partager. Hein, moi, je dis que ça se décuple, mais avec un enfant. Et donc, par conséquent, ils vont être jaloux de leur enfant. Et à ce moment-là, ils vont reprocher à leur femme de s'occuper trop ou mal de leur enfant, donc d'être de mauvaise mère. Et la violence intervient à ce moment-là. Hein, puisque tu ne me regardes pas, tu es une mauvaise épouse, et puis tu le regardes trop ou mal ou pas assez aussi, donc tu es une mauvaise mère. Et donc là, on commence le dénigrement. Le troisième point, c'est que lorsque cette femme travaille, il ne va pas supporter qu'elle aille travailler, que, évidemment, après aller travailler, on peut aller boire un café avec une amie, on peut aller dîner avec une amie, on peut aller au cinéma avec une amie, enfin, tout ce que font des femmes avec des copines ou en traînant un peu, en rentrant un soir. Voilà. C'est insupportable.
C'est la liberté, en fait, de la femme qui est insupportable.
C'est ça. C'est le fait que la femme ne dépende plus de lui. Alors, avec un enfant, elle va moins dépendre de lui, puis elle va être moins accessible physiquement, il y a des allaitements, enfin, il y a des tas de choses. Et avec le travail aussi, elle va être indépendante économiquement, indépendante psychiquement, elle aura des amis de travail, elle aura des horaires, elle aura des supérieurs hiérarchiques, qui sont des hommes aussi. Donc, ça ne va pas aller. Si elle va, elle fait du sport ou que sais-je, alors là, c'est une catastrophe. Donc, toutes les libertés vont être la cause de violence. L'objet de violence. Donc cette femme-là, elle va devoir peu à peu, si elle reste avec cet homme-là, renoncer à tout ça. D'où le fait que les femmes victimes de violence se plaignent d'avoir été isolées. Il va leur dire, mais attends, regarde, ton employeur, c'est un con, il ne te paie pas assez, c'est pas la peine de gagner 1500 euros. Regarde, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, ce sera très bien pour toi, et terminé. Tu seras plus heureuse et les enfants seront beaucoup mieux avec toi. Et moi, regarde, notre couple va bien mieux fonctionner. Donc, elles arrêtent de travailler. Elles arrêtent de travailler, elles s'isolent, elles n'ont plus de collègues de travail, elles ne rencontrent plus les gens, elles sont en tête à tête avec l'enfant, elles n'ont plus de liberté économique, et elles vont être de plus en plus sous la coupe de cet homme-là. Et donc leur psychisme, leur liberté psychique va se rétrécir, et leur mode de pensée va se superposer à celui de l'agresseur.
Jusqu'au moment où...
Ben, soit il les tue, soit elles se disent, mais il y a des choses qui font des clics. Et qu'est-ce qui fait des clics? Ça va être soit l'enfant est victime de violence. Généralement, c'est ça. Soit elles se sont vues mourir, soit l'enfant est victime de violence. Donc, ce sont ces deux gros déclics.
Et du côté des auteurs des violences, c'est tous les milieux sociaux,
Absolument tous les milieux sociaux. Hein. D'ailleurs, ce ne sont pas que les hommes alcooliques qui sont auteurs de violences conjugales. Ce ne sont pas que les ouvriers qui sont auteurs de violences conjugales. Surtout pas. Et d'ailleurs, plus on va monter dans l'échelle sociale, plus les choses vont être difficiles. À la fois pour la victime, pour arriver à les dévoiler. Pourquoi ? Parce qu'elle va se dire, il a de l'argent, il a du pouvoir, il a des connaissances, il va être très bien défendu. C'est vrai. Mais elle aussi, elle a tout ça. Si un homme comme lui, aussi bien, je me dis, cet homme qui est si génial, vous a choisi pour femme, c'est que vous êtes aussi génial. Mm-hmm. Vous devez y penser à ça. Donc vous aussi, vous allez remettre en place tout le monde et tout le système.
Et aussi pour ceux qui sont auteurs de violences.
Sont auteurs de violences aussi, parce que plus on monte dans l'échelle sociale, moins c'est avouable, plus c'est tabou. Et oui, un avocat auteur de violences conjugales, c'est extrêmement tabou. Un magistrat auteur de violences conjugales, c'est tabou. Un directeur de société, c'est tabou. Donc eux-mêmes vont avoir beaucoup de difficultés à le reconnaître. Et donc là aussi, on aura des dossiers qui seront beaucoup plus difficiles. Pourquoi ? Parce que ce sont des hommes qui sont aussi s'adapter à l'interlocuteur. Beaucoup plus que d'autres. Et ce sont des hommes qui seront très conseillés. Donc, mon conseil aussi aux femmes, c'est de leur dire, mais il faut absolument être conseillé par des avocats très spécialisés depuis le début. Parce qu'il y a une stratégie de l'homme violent qui fait que soit on est dans les 10% de ceux qui reconnaissent les faits, ce qui n'est pas beaucoup, soit on est dans les 90% de ceux qui ne reconnaissent pas et qui vont vouloir masquer leur violence.
Et ceux des milieux sociaux plus favorisés sont plus habiles à masquer la violence.
Ils sont plus habiles à masquer parce qu'ils ont plus de moyens à tout niveau.
Le langage
économique,
de comportement,
d'adaptation à l'interlocuteur.
Qui vient souvent du même milieu social, puisque pour parler aux magistrats, aux avocats, aux psys, etc., c'est le même milieu social.
Ils connaissent... Le code. Ils ont le bon code.
On arrive déjà à la fin de cet entretien.
Ça va très vite.
Je vous remercie beaucoup. Est-ce que pour terminer, il y a une œuvre que vous aimeriez recommander, une série télévisée, un livre ou un film, ou peut-être pas, mais pour sur cette question-là, ou sur les hommes, ou sur les masculinités ou...
Vous savez, il y a des... C'est un film qui a été très, très vu. Je pensais au film, je viens évidemment d'oublier le nom, où Brigitte Bardot a tué, qui est inspiré de Madame Dubuisson.
Ah oui, de Pauline Dubuisson.
Pauline Dubuisson,
ce film de Cluzet.
C'est ça.
Comment il s'appelle?
Quel malheur. La vérité.
La vérité,
c'est ça, non? Pas sûr. Il y a Paul Meurice.
Inspiré de ce terrible fait divers de Pauline Dubuisson qui a tué son amant.
Le père s'est suicidé, elle était fille de militaire, donc d'un très bon milieu social. Donc on est dans tous ces tabous là et je trouve que ce dossier là et ce film, le film est romancé, tout ce que vous voulez, mais la posture de Brigitte Bardot, qui est dans ce rôle de femme auteur, on va parler de femme auteur, et qui va dire à la société et surtout aux magistrats de l'époque, ce qu'elle est, comment elle est et sa liberté, eh bien c'est de l'ordre absolument l'inécoutable. Et c'est ce tabou-là que l'on a au sein de l'institution judiciaire, encore, qui est d'entendre la liberté et de ne pas être conforme à ce qu'on disait au code de ce qu'un juge peut entendre ou de ce qu'une institution peut entendre. Et en ça, je trouve qu'il est très intéressant.
Mais sauf que Pauline Dubuisson, ça lui a été fatal.
Bien sûr, ça lui a été fatal. C'est exactement ce qu'on dit. C'est que si vous n'êtes pas dans le code ou dans le fonctionnement, eh bien, c'est fatal.
Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans les dossiers que vous plaidez ?
Oui, totalement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans ce que l'on attend de vous, que vous soyez auteur ou soyez victime, eh bien, l'institution passe à côté de votre dossier. De votre histoire, en fait.
Merci. Merci beaucoup.
Avec plaisir, ça a été un moment de grand intérêt. Hein.
Merci
pour vos questions.
Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis toujours très curieuse d'entendre vos retours, de savoir si vous en avez parlé autour de vous et si oui, ce que cela a pu susciter comme discussion et réaction. Vous pouvez m'écrire à lescouillessurlatable@binge.audio ou alors sur Facebook et Twitter, et toutes les références des œuvres de l'œuvre notamment dont on a parlé, des chiffres, etc. Sont à retrouver sur le site de binge.audio. Merci et à bientôt.
Binge Audio. Ah non, Binge.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair. Dans le podcast Le Cœur sur la Table.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.